Bonjour et bienvenue sur la chaîne de podcast Métamorphose Professionnelle, le podcast qui s'intéresse aux transitions professionnelles. Vous y découvrirez des témoignages de personnes venues de tout horizon qui partagent avec vous leur parcours, leurs hauts et leurs bas, la réalité de leur métier et du monde du travail. Nous parlerons également de multipotentialité, de slashing, de rupture de contrat, de formation, d'argent, d'épuisement professionnel, de conciliation vie pro-vie perso et surtout de sens au travail et bien d'autres sujets encore. Je vous invite également à mettre 5 étoiles si vous avez aimé l'épisode et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochains épisodes. Je m'appelle Tiffaine Choblet, je suis psychologue du travail et ma mission est d'accompagner les personnes en quête de sens qui souhaitent un changement dans leur vie professionnelle et valoriser leur image en les aidant à déployer leurs ailes et à prendre leur envol. Je suis très émue aujourd'hui de vous partager l'interview qui va suivre car il s'agit d'une merveilleuse personne que j'ai eu plaisir d'accompagner dans le cadre de son parcours métamorphose professionnelle et que je rencontre pour la première fois en présentiel dans le cadre de cet enregistrement car nous n'étions pas du tout sur le même secteur géographique au moment de son accompagnement. Elle est graphiste, interprète, chargée de contenu web, chargée de projets événementiels et culturels et bien plus encore. Sophie est une voyageuse créative multipotentielle et a fait le choix de quitter sa région natale pour s'installer à près de 1000 km en Bretagne pour vivre une expérience professionnelle qui correspond davantage à ses valeurs. C'est ainsi qu'elle est passée de la connexion web à la connexion aux autres en devenant chargée de projets événementiels pour faire revivre un café-concert au sein d'un hameau écolo. Je me souviens encore de la fois où Sophie m'a contactée en me disant qu'elle m'avait trouvée en effectuant une recherche sur internet en indiquant « j'ai envie de faire trop de choses différentes ». Le feeling est alors tout de suite passé entre nous et c'est ainsi que Sophie a pu déconstruire certaines croyances et prendre conscience de sa valeur et de sa légitimité quant à son côté touche-à-tout. Elle est alors passée d'un poste où elle s'ennuyait à une expérience exaltante. Mais ça, c'est elle qui vous en parlera mieux que moi. Bonjour Sophie.
Bonjour Tiffaine.
Je suis ravie aujourd'hui de t'accueillir dans le cadre du podcast Métamorphose Professionnelle.
Merci.
D'autant que tu étais l'une de mes clientes, hein, je dirais, donc, puisque tu as suivi toi-même le parcours Métamorphose Professionnelle.
Oui.
Donc l'idée, c'est que tu puisses déjà commencer par te présenter, si tu veux bien.
Mm-hmm.
Alors dis-nous qui tu es.
Je suis Sophie, j'ai 27 ans.
D'accord.
Je suis née dans la Marne, j'ai habité dans la campagne. J'ai emménagé adolescente ensuite en banlieue de Lyon. J'ai passé mes études à Saint-Étienne, aux Beaux-Arts de Saint-Étienne. J'ai fait 4 ans et demi. J'ai pas fini mon master. J'étais en parallèle au conservatoire en musique actuelle à Saint-Étienne. J'ai passé 9 ans de ma vie, le début de mon parcours professionnel à Saint-Étienne. Là, je suis arrivée il y a très peu de temps, il y a 2 mois, en Bretagne, pour un nouveau travail, une nouvelle vie.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous raconter justement ce nouveau travail, cette nouvelle vie, et déjà d'où tu es partie ?
Début 2022, janvier 2022, j'étais encore à Saint-Étienne, en télétravail travail de bureau pour une entreprise à Saint-Étienne, où j'écrivais des fiches produits pour leur site internet. C'est un travail que j'avais pris suite à la pandémie, au Covid, au confinement, au fait que j'avais plus trop de travail dans ma branche culturelle. J'ai eu un accident aussi fin 2020 qui m'a fait arrêter pas mal de mes activités culturelles et musicales. Donc j'ai pris ce travail-là pour avoir un rythme de vie à peu près normal et de l'argent pour survivre et voilà, avoir me remettre un peu en jambes après les quelques mois où j'étais bloquée. Ça m'a bien aidée pour ça, ça m'a bien aidée à sortir de la déprime, à sortir du coltard. De mon lit le matin, à reprendre une vie sociale avec une équipe super chouette. Mais ce n'était pas vraiment le parcours professionnel qui m'animait vraiment. C'était un travail que j'avais choisi par nécessité plus que par envie et aspiration. Et donc, quand j'ai quitté Saint-Étienne pour des raisons personnelles, c'était logique dans ma tête que ça allait forcément s'arrêter pour ce travail-là aussi. Et que c'est pas ce travail-là qui allait me motiver à rester à Saint-Étienne et y construire ma vie. Donc, en février, je pars de Saint-Étienne en restant en télétravail pour cette boîte-là. Je m'installe dans le sud chez mes grands-parents, logée, nourrie, blanchie. Ça m'a fait une soupape plutôt agréable pendant 6 mois. Et donc, oui, je suis restée en télétravail dans le sud. Ça a été assez dur parce que j'étais seule et je suis quelqu'un de très social. Donc, travailler devant mon ordinateur 39 heures par semaine, ça n'allait plus du tout. J'avais plus envie de me lever le matin pour bosser. En milieu de cette période-là, en avril, je commence à taper sur Internet que je sais pas trop quoi faire de ma vie. Et je tombe sur Tiffen, donc toi, qui propose des parcours. De réflexion sur le parcours professionnel et le parcours métamorphose, et ça m'a parlé. Du coup, ça m'a permis, pendant une période de télétravail où j'étais un peu paumée, de déjà réfléchir à ce que je voulais faire après et comment me sentir mieux. Voilà. Ça, c'est la période où j'ai vraiment travaillé avec toi sur mon parcours.
Et qu'est-ce que ça t'a permis? Qu'est-ce que ça t'a apporté, même si tu étais déjà dans ces réflexions-là, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as eu le déclic et t'as switché?
Alors, il y a par exemple le fait que mes grands-parents ne comprenaient pas ce que je faisais devant mon ordinateur 39 heures par semaine et que je pense qu'ils me voyaient un peu comme un zombie qui passait ses journées, même après le travail, devant l'ordinateur. Et moi, ça faisait déjà ouais, quelques mois, voire même 1 ou 2 ans où je me disais que travailler devant mon ordinateur, c'était un peu rébarbatif et pas anxiogène, mais déprimant, quoi. Où j'arrivais pas à garder un rythme qui me convenait, ni des connexions sociales suffisantes à mes besoins. Et le fait d'être en télétravail, seule chez mes grands-parents, il y a eu vraiment cette prise de conscience-là de, en fait, un travail où je suis toute seule devant un ordinateur, c'est plus possible, quoi. Surtout si j'arrive pas à nourrir à côté une vie sociale suffisante. Je veux pas être toute seule devant mon travail, je veux pas être toute seule devant mon ordinateur, j'ai besoin de connecter avec des gens, mais je sais pas trop comment le faire parce que bah, je suis bloquée dans ma confiance en moi pour revenir à des activités musicales, culturelles qui me nourrissent vraiment et me parlent vraiment. Donc j'avais ce décalage-là entre ah, j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas assez confiance en moi pour y retourner. Et en même temps, je manque beaucoup de besoins de vie sociale et de connexion humaine dans mon travail. Et donc, ces deux choses en même temps, ouais, j'étais déprimée, quoi.
T'étais connectée.
J'étais connectée, déconnectée. J'étais
Et
très
voilà, c'est ça.
connectée à Internet et à des
Exactement.
choses virtuelles, mais j'étais pas du tout connectée à ce qui me parle vraiment, quoi.
C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui t'a attiré dans le parcours métamorphose, par rapport, par exemple, à un bilan de compétences ou un autre type d'accompagnement?
Ton approche sur le site internet, c'est un peu bête, hein, mais des fois, juste la manière, l'ambiance que tu amènes au parcours et à comment ça va être construit par des exercices aussi. Moi, j'avais déjà rencontré des psychologues, pas forcément du travail d'ailleurs, où c'était beaucoup parlé, où j'avais pas l'impression d'être très active dans mon développement. Et là, la manière dont t'as amené le travail de réflexion, de compréhension de soi et la structure du parcours où il y a d'abord voilà, de l'introspection, où j'en suis, qu'est-ce qui va pas, Après, qu'est-ce que je veux rechercher vraiment, enfin d'aller s'ouvrir, un peu d'ouvrir les bulles de compréhension de ce qu'on est. Je trouvais ça assez cohérent et j'avais besoin de ça. Et ça permet aussi, moi je crois que j'ai fait les deux premières phases
C'est ça.
et ça permet, voilà, s'il y a une personne qui a besoin de plus de la phase 3 où c'est vraiment construire le projet. Ça, ouais, voilà, ça permet d'adapter un peu à tout le monde, quoi. Et puis oui, aussi le fait que c'est moi c'était une démarche personnelle et le fait d'avoir un psychologue un à un où il n'y a pas une structure à rendre des comptes aussi ça me soulageait, où je me disais que ça pourrait être plus personnalisé aussi.
D'accord.
Et puis ça me motivait de me dire que c'est moi qui fais la démarche, c'est pas Pôle emploi ou je sais pas qui me dit qu'il faut que je fasse un bilan. J'avais quand même envie d'avoir une relation psy, client, patient qui n'a rien à voir avec une quelconque structure où il fallait rendre des comptes.
Est-ce que il y a à un moment donné dans le parcours, soit via un outil, un exercice ou une réflexion, quelque chose qui, voilà, qui t'a particulièrement marqué et qui a été peut-être révélateur par rapport à la suite?
Bah, au final, la phase 1, vraiment de se recentrer, de dire, OK, là où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui va pas, comment je me comprends, c'était vraiment quelque chose que j'avais besoin de faire, aidé par quelqu'un, de différent de mes amis avec qui je pouvais discuter de ça, mais d'avoir un regard extérieur sur comment je me perçois. Ça m'a vraiment travaillé, ouais, pendant bah, de avril à juin pratiquement. Mais c'est plus la manière enfin, savoir que chaque semaine j'avais des exercices sur lesquels je pouvais réfléchir et avoir le rendez-vous toutes les semaines avec toi pour débriefer, pour creuser un exercice Moi, en plus, après, je pouvais en parler justement à mes amis ou à ma famille, me dire, ah bah voilà, je fais ça avec Tiffaine, ça m'a fait réfléchir à ça, bah, notamment sur des questions de confiance en soi, sur comment je me percevais comme une personne très désorganisée, qui savait pas comment gérer des choses basiques de sa vie, alors qu'en fait, bah, quand on en a discuté, tu m'as fait prendre conscience que si, en fait, je savais organiser des choses dans ma vie.
Tout à fait.
Et que si, bah, d'ailleurs, je pense que je pourrais pas faire le travail que je fais actuellement, qui est beaucoup de coordination et beaucoup d'organisation, si j'avais eu cette peur-là de me dire, non, mais en fait, je pourrais jamais gérer des plannings, en fait, alors que là, clairement, mon travail ces temps-ci, c'est gérer un calendrier pour plein de gens. Donc ça m'a enlevé cette peur-là
T'as pris conscience en fait
que je pouvais le
de
faire.
tes capacités.
Oui.
Là, il y a eu donc cette opportunité en Bretagne. Est-ce que tu dirais que c'est ça qui a été le déclic pour toi de changer de vie ou est-ce que il y avait quand même déjà cette volonté?
Moi, c'était déjà des questionnements que j'avais. Je ne savais pas ce que j'avais comme opportunité du tout. Mes questionnements, c'était est-ce que je reste dans le sud parce que c'est une région qui me plaît et du coup je trouve un travail à mi-temps dans le coin et je me remets petit à petit à la musique dans cette région-là et je refais mon réseau. Ou est-ce que je vais ailleurs, mais ailleurs où, pourquoi, comment? C'était pas du tout clair quoi. Je savais que je voulais plus être à 39 heures, que j'avais besoin de tirer un trait sur ce qui s'est sur ma vie à Saint-Étienne, aussi autant pro que perso, mais comment c'était le flou quoi. Je savais pas vraiment. Je savais juste que j'avais besoin de reprendre confiance en moi. Et en même temps, bah, en même temps que le parcours métamorphose, j'en ai aussi profité pour reprendre des cours de chant en même temps. Donc c'était vraiment pendant cette période-là, ça a été vraiment une démarche pour moi de reprendre confiance, de revoir ce dont j'ai vraiment besoin. et d'être accompagnée. Je voyais très bien que je pouvais pas le faire toute seule. J'avais besoin de personnes compétentes qui pouvaient me montrer qu'il y avait tels outils, que je pouvais reprendre la main sur ça, que ça prendrait du temps ou pas. Mais ouais, j'avais besoin de personnes qui m'entourent.
Et tu avais aussi pas mal d'idées, de pistes à un moment donné hein, dans l'accompagnement, vraiment diverses et variées, je dirais, et pas forcément très localisées dans le sud, hein, ça pouvait être un peu enfin, dans plusieurs endroits en France. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi dans cette prise de décision?
Ce qui était le plus difficile, c'était ouais, j'ai beaucoup de mal à faire des choix et à abandonner des idées. Et ça, ah bah, par exemple, voilà, il y a un exercice et je pense une phrase que tu m'as dite quand on parlait de la différence entre un fantasme, un projet
Un rêve.
et un rêve, de faire de restructurer mes choix et mes idées par ce biais-là de ça c'est un rêve, ça c'est un fantasme et ça c'est un projet qui peut se concrétiser. J'en ai vraiment parlé à toutes mes potes. Je me suis dit, non, mais en fait, c'est trop bien, je vais pouvoir réorganiser tous mes trucs comme ça et me rendre compte que, voilà, par exemple, les projets de van aménagé enfin, pour vivre, c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps et que je voyais de l'ordre du fantasme parce que, bah, clairement, j'avais pas acheté ce van. Je l'ai toujours pas acheté d'ailleurs, mais parce que là, c'est pas le moment et c'est pas pertinent. Mais c'était pas du fantasme parce que j'avais déjà engagé plein de choses
Totalement.
pour réaliser ce projet. Alors que d'autres choix ou idées, par exemple, je sais pas, être vétérinaire, qui n'avaient rien à voir en termes de vie, j'avais rien fait pour et c'était de l'ordre du fantasme parce que j'ai envie de sauver des animaux. Et en fait, de sortir de ce fantasme-là en disant. Ah bah, qu'est-ce qui m'anime dans le fait de vouloir être vétérinaire? C'est d'être proche des animaux. De quelle manière je peux être concrètement proche des animaux et les aider et tout? Bah, y a d'autres solutions. Je sais pas, être dans une asso ou être entouré d'animaux, adopter un animal. Et ça nourrit au final suffisamment ce besoin-là d'être en contact avec les animaux plutôt que tout de suite partir dans des grands fantasmes qui ne peuvent pas se réaliser et qui ne créent que de la frustration.
Oui, puis tu le disais tout à l'heure, enfin le travail, voilà, il ne prend pas forcément la même place.
Oui.
C'est-à-dire que on peut avoir de multiples intérêts, on va pas forcément tout faire, tout mettre en œuvre professionnellement. Et en effet, c'est faire la part des choses entre ce qui va être de l'ordre du professionnel, l'ordre du personnel
Oui.
et du loisir. Et pour autant, ça peut très bien se combiner. Et puis, des fois, c'est aussi se rendre compte que ben, on aime peut-être certaines choses, mais pas professionnellement, parce que voilà, ça demande d'autres contraintes aussi.
C'est vrai que moi, dans mon parcours, ça a été vraiment les flous perpétuels entre ça, parce que bah, voilà, aux Beaux-Arts et au Conservatoire, ça reste des formations, des études que beaucoup considèrent comme de la passion ou des métiers passion, alors que bah, au final, si t'es passionné par ton métier, quel qu'il soit, bah, ça c'est un métier passion. Mais en tout cas, ce domaine-là de la culture, c'est assez flou pour les gens. Le passage du enfin, du hobby, de l'amateur au pro, de pouvoir me recentrer dans mes idées et de faire la différence entre rêve, fantasme, projet. Bah, par exemple, je me suis rendu compte pareil que dans le domaine de la musique, si j'ai envie de devenir intermittente ou de chanter. En tant que professionnelle, j'ai déjà eu des expériences professionnelles dans la musique et au final, c'est beaucoup plus proche et faisable pour moi d'avoir cette expérience professionnelle-là que, je sais pas, que d'être médecin ou que d'être éditrice ou que d'être prof. Alors que pour beaucoup de gens, ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être que de l'ordre du hobby de faire de la musique. Et du coup, je ne savais pas trop comment me positionner avec ça en me disant, ouais, mais quand même, c'est peut-être que de la passion. Bah non, en fait, j'ai ça dans mon parcours pro qui fait que je peux prétendre à être légitime à développer ce parcours professionnel-là.
Tu parles de légitimité là, est-ce que
Oui.
je veux que ça te fait sourire? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que tu te sens légitime là aujourd'hui par exemple sur le poste que tu occupes?
Oui,
Ouais.
je me sens légitime parce que c'est un poste qui est très polyvalent. J'avais peur d'être spécialiste de rien, d'être touche à tout et que ça ne me serve, enfin que ça ne me permette pas d'avoir un parcours professionnel pertinent, cohérent. Et ce travail-là, au final, a besoin d'un profil comme moi qui touche à tout et qui n'a pas peur de, je sais pas, d'aller servir des bières à 22h et puis le lendemain matin, aller à un rendez-vous de partenaires jeunesse, de centres sociaux, et puis le lendemain, faire de la communication, du graphisme, et le lendemain, monter des câbles sur une scène. C'est exactement enfin, ce que moi je sais faire et qui me plaît et qui fait que je m'ennuie pas et que je vois pas le temps passer ces temps-ci. Et donc, oui, je me sens légitime aussi parce que je vois que c'est validé par l'équipe et que l'équipe elle est assez confiante en moi. Mais aussi, en fait, j'ai l'impression que j'allie le fait que je me sens légitime aussi au fait que je m'éclate dans ce que je fais. Et que je vois pas du tout ça comme comme un poids. Et que toutes les personnes que je rencontre et que tous les événements qui se passent ces temps-ci sont fluides. Même s'il y a des moments de stress et tout, c'est normal, hein, c'est de l'événementiel, il y a beaucoup d'urgences à gérer. Mais pareil, je me sens légitime et là-dedans parce que je sais que je suis quelqu'un de très adaptable, je vais pas paniquer pour rien. Ouais, c'est exactement le type d'environnement qui est fait pour quelqu'un comme moi.
Je me souviens dès la première fois hein, qu'on avait échangé ensemble, avant même de commencer l'accompagnement. Je voyais, tu savais déjà que tu étais un peu touche-à-tout, que tu aimais plein de choses, que tu avais plein de centres d'intérêt. Et tu t'ennuyais sur ton poste et tu parlais de peur tout à l'heure. Et tu avais aussi un peu cette peur de t'ennuyer rapidement parce
Oui.
que je disais au départ, bah, j'ai souvent cette excitation de commencer quelque chose de nouveau. Et puis finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, bah, ça s'essouffle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que bon, là, le recul est encore insuffisant, j'en sais rien. Là, depuis que tu as commencé ce nouveau poste en Bretagne, qui est très varié pour le coup, est-ce que tu sens que voilà, tu aurais moyen de t'ennuyer aussi assez rapidement?
Je pense que c'est une structure qui, dans tous les cas, si je commence à me sentir dans la routine, je vais pouvoir, grâce à l'équipe et à la manière dont c'est hiérarchisé, proposer d'autres choses pour ne pas être coincé dans des missions qui ne me parlent plus. Ils sont pas du tout, je pense, stressés par changer les fiches de poste des gens. Ce qu'ils veulent, c'est que les personnes dans l'équipe soient à l'aise et soient bien dans leur fiche de poste et dans leur mission pour garder une équipe motivée, quoi. Effectivement, j'ai pas le recul. Là, je vois que quand même, ça fait 2 mois que je suis là. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines parce que je reviens dans tout ce que je découvre et je vois la potentialité de tout ce qu'il y a encore à faire. Alors que bah, dans le précédent travail, je savais pourquoi je le prenais, c'est-à-dire argent et me restructurer dans ma vie. Mais je voyais aussi les limites. En fait, avant même de prendre le poste, je savais qu'il y allait avoir des points qui allaient très vite m'ennuyer et où j'allais devoir soit trouver des subterfuges pour pallier à cet ennui, soit voilà, accepter que ça allait être temporaire. Alors que là, pour l'instant, quand j'analyse ce qui se passe ces temps-ci à l'éprouvette à mon travail, je vois pas de fin pour l'instant du tout, quoi.
D'accord, bon, c'est plutôt mon signe. D'accord, ok. Là, ta famille, tes amis, puisque tu avais tout ton réseau finalement dans le sud, tu vas à l'autre bout de la France. Comment ça a été perçu? Quelles ont été les réactions de ton entourage
Alors, mes amis ont très bien compris parce que je pense que c'est un Le lieu dans lequel je travaille, c'est un bar associatif, culturel, en zone rurale, porté par un collectif. Donc c'est des structures qui sont assez novatrices, donc pas faciles à faire comprendre à des gens, on va dire, de plus de 50 ans, quoi. Parce que c'est des choses nouvelles, tout simplement, des structures qui n'existent pas forcément partout. Donc mes amis ont très bien compris et ont été super enjoués de voir que je pouvais clore le dossier à Saint-Étienne en partant en Bretagne dans un projet qui a beaucoup de sens pour moi. Ma famille, il a fallu que je leur explique que voilà, j'allais prendre un mi-temps, que j'allais être payée moins de 700 euros par mois. Que j'allais pas avoir des horaires fixes. C'était un CDD de un an, que j'allais devoir trouver un logement, enfin que voilà, que j'allais avoir une situation précaire et que le fait que je sois heureuse d'aller dans ce nouveau travail n'avait rien à voir avec le fait que j'allais être dans une situation précaire, mais que j'ai très consenti. C'est pas une situation, on va dire, financièrement stable dont j'avais besoin tout de suite, quoi. Parce que la situation financièrement stable, je l'avais dans mon ancien travail, j'étais en CDI, j'avais 1700 euros net, j'avais des super assurances et tout, machin, mais ça n'a pas suffi à pas me déprimer, quoi. Alors que je pense qu'en tout cas, mes parents, quand ils ont vu que j'étais très enjouée et que leur fille était très contente de commencer septembre de cette manière, ils étaient contents et puis ils sont curieux, je pense, de découvrir aussi. Ma grand-mère, donc chez qui j'ai habité pendant 6 mois, elle comprenait pas trop l'intitulé du poste, ni ce que je pense que là, elle sait toujours pas ce que je fais concrètement, à part organiser des concerts dans un bar. Je crois que c'est ça ce qu'elle visualise de mes journées. Mais pareil, j'ai hâte qu'elle rencontre. Je pense que c'est des métiers, enfin des structures et des professions qui sont chouettes à faire découvrir à la famille, quoi, vu que de toute façon c'est dans des lieux qui accueillent du public. Je pense que les quelques inquiétudes qu'ils auraient pourraient être assez vite effacées par la rencontre avec le lieu. Voilà, après, ouais, la famille, c'est surtout la situation précaire qui les stresse un peu, mais je pense que de voir. Que je les appelle avec le smile à chaque fois et que je leur dis, ah, j'ai fait plein de choses, je me lève le matin, je ne suis plus à glander jusqu'à 14h parce que je ne sais pas quoi faire de ma vie. Bah, ça doit quand même leur faire prendre conscience que j'ai fait un choix cohérent, quoi.
Est-ce que ça a eu un impact dans ta décision? Est-ce qu'à un moment donné, ça a pu provoquer des doutes chez toi, le fait d'avoir cette peur de ta famille?
Oui. En tout cas, peut-être pas dans cette. Je sais pas si dans cette décision de partir dans ce travail-là. Moi, j'avais un peu peur quand même de partir loin. C'est relatif, mais en tout cas, pour moi, c'était loin de ma famille. J'ai toujours été à moins de 3 heures de ma famille. Et là, du coup, de devoir repenser la manière d'être en relation avec ma famille, ça a joué. Donc ça, j'ai dû vraiment, ouais, le peser dans ma tête. Après, ma famille est quand même plutôt en forme. Ils vont venir me voir d'ici quelques mois. Donc voilà, j'ai pas. Et puis le travail, la structure du travail me permet de pouvoir partir assez simplement. Voilà, c'est des peurs. En fait, c'était des peurs de zone de confort, quoi. Plus que des peurs très légitimes. Et ça, justement, le parcours, ça m'a permis de comprendre ça. Quelles sont les peurs très rationnelles? Au final, j'en avais très, très peu des peurs rationnelles, à part voilà, la stabilité de économique de mon choix. Et du coup, ça a permis, ouais, de déconstruire ça, que des peurs de zone de confort. Au final, j'arrivais dans le parcours en te disant, ouais, j'en ai marre, je suis dans un truc où je m'ennuie, donc je me plains d'être dans une zone de confort. J'ai besoin d'aide pour en sortir, donc je peux pas non plus après me rester coincée parce que je reste dans la zone de confort, quoi. Donc ça m'a permis, ouais, dans le parcours, de comprendre ça.
T'as eu des prises de conscience. Oui. c'était assez, assez rigolo parfois. Est-ce que c'est rationnel, c'est pas rationnel? Ok. Quelles ont été les principales difficultés que tu as pu rencontrer dans ce changement?
Ouais, ça a été de faire le choix vraiment, d'accepter qu'il y a des choses que je vais pas pouvoir faire tout de suite. Par exemple, vivre à 7, ça ne doit pas être un choix de vie que je vais pouvoir faire tout de suite. Avoir une carrière de musicienne intermittente, c'est pas quelque chose que je vais faire tout de suite, mais le projet et le projet professionnel que j'ai choisi actuellement, en étant dans un bar qui fait des concerts, où je vais être dans le réseau musical de Bretagne très vite, ça va quand même m'ouvrir certaines portes, certaines opportunités. Donc ça a été choisi en conscience de ça. La difficulté de prioriser mes besoins.
Ouais.
Est-ce que j'ai vraiment... Par exemple, quand je me suis rendu compte avec toi que ce dont j'avais surtout besoin, c'était plus un cadre de vie que un travail et une carrière professionnelle, que j'allais pas faire mes choix de vie en fonction de ma carrière, alors que je vois hein, des amis qui fonctionnent comme ça et qui sont capables, parce qu'ils ont un travail qui va les porter dans leur carrière, de vraiment changer de ville et tout. Moi, c'était l'environnement qu'allait me permettre ce changement de région, en ayant l'excuse aussi du poste, mais c'est l'environnement de ce petit village avec ses activités alternatives, ce collectif qui fait plein de projets trop chouettes, qui m'animait. Si en plus je suis payée et que je trouve un emploi là-bas, tant mieux. Mais c'était quand même surtout de faire une nouvelle expérience de vie qui m'animait. Donc voilà, de comprendre ça, que j'allais pas chercher forcément une carrière de vie, que j'allais devoir l'expliquer aussi à ma famille, que je fonctionne comme ça. Et qu'il faut qu'ils arrêtent d'avoir peur de voir leur fille changer de taf tous les 2 ans, parce que moi c'est pas le travail qui va me stabiliser mentalement, c'est les expériences de vie que je peux vivre, que ce soit à travers le travail ou autre chose.
Ouais, d'accord. Et ça, tu avais déjà conscience que c'était pas le travail qui allait te stabiliser mentalement, ou il y a eu cette prise de conscience au fil du temps?
Ça m'a permis de mieux les derniers mois avec toi, ça m'a permis de mieux le verbaliser. J'en discutais déjà avec une amie qui fonctionne un peu comme moi. On essayait toutes les deux de dédramatiser après des années où on se disait, mais oh là là, pourquoi j'arrive pas à garder un travail plus de 1 ou 2 ans, pourquoi je m'ennuie à chaque fois, pourquoi j'arrive pas à trouver de la motivation, est-ce que je suis quelqu'un qui fait les choses en dilettante, qui n'est pas sérieux dans son travail. Et du coup on se stressait pour ça, parce qu'on on voyait qu'on n'arrivait pas à garder une carrière stable. Et donc au début on en rigolait pour dédramatiser, dire non mais de toute façon voilà, on fonctionne comme ça. Et maintenant, moi dans le parcours qu'on a fait ensemble, et aussi en discutant avec elle, ça a permis d'être assumée, ouais, vraiment.
Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent aujourd'hui, professionnellement ou dans ta vie de manière générale, dans ta nouvelle vie?
Et ben, un projet de musique, que ce soit pro ou pas, mais en tout cas construit, créatif.
La créativité est beaucoup revenue dans nos échanges. Est-ce qu'aujourd'hui, hormis la musique où c'est un peu en pleine construction, est-ce que cette créativité, tu l'as retrouvée? Est-ce que tu arrives à l'exploiter comme tu le souhaites professionnellement?
Je dirais que là, ce que ça m'apporte ces temps-ci professionnellement, c'est plutôt de découvrir mes compétences de coordination. Il y a tellement de choses qui se passent à l'éprouvette et dans toutes les missions que je dois intégrer, que pareil, la part de créativité, je ne l'ai pas encore travaillée. Après, d'être entourée de gens très créatifs, par contre, ça me titille plus. J'ai quand même repris la musique, enfin, j'ai rechanté plus depuis que je suis là que depuis 2 ans. Donc je vois que voilà, ça, l'environnement dans lequel je suis me, me permet quand même de reprendre la main petit à petit, avec plaisir. Je sais que ça va prendre du temps, quoi, en fait.
Comment tu vois la suite des choses?
Faut que je trouve un logement peut-être plus stable pour m'installer au moins sur 1, 2, 3 ans. Je stresse pas l'idée de partir si ça ne me va pas, si ça me convient pas, s'il y a des tensions ou si le projet pour X raison doit s'arrêter. J'ai appris à relativiser que je pourrais retrouver un groupe de musique, je me vois créer un réseau musical à Rennes, découvrir la région. Ça va être chouette aussi pour ça, parce que je vais pas avoir à m'ennuyer pendant un moment, vu tout ce qui se passe
C'est sûr.
en Bretagne.
Ok. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs conseils que tu aimerais donner à des personnes qui souhaitent changer d'orientation?
Je dirais de pas dire dans sa tête, de toute façon je vais y arriver tout seul, j'ai besoin de personne. Moi, je crois pas trop en ça. Ou alors, si on fait les choses seules, ça va, faut accepter que ça va peut-être prendre beaucoup de temps, quoi. Parce qu'on va aller devoir chercher des outils par soi-même. On va devoir prendre, avoir la volonté aussi de s'autodiscipliner. Et ça peut être fatigant dans un moment où on est déjà en doute. Alors que d'être accompagné par quelqu'un, ça permet, de devoir faire les choses aussi, parce qu'on a un planning, il y a des phases qui sont construites, qu'on peut visualiser assez clairement dans le parcours, d'en parler à plein de gens, d'en parler à des amis ou de la famille qui nous inspirent. Après, c'est un peu cliché, mais voilà, de ne pas avoir peur de partir et de sortir de sa zone de confort, mais en fonction des attaches qu'on a, et ça, c'est d'ailleurs dans le parcours, il y a un exercice. Où tu parles de ça, de prendre conscience de vraiment ce qui nous retient dans une situation qui ne nous plaît pas, ou qu'est-ce qui nous empêche vraiment d'atteindre les objectifs. Est-ce que c'est des chaînes qu'on ne pourra pas enlever et qu'on doit faire avec, ou est-ce que c'est des chaînes qu'on s'est créées et qu'on peut enlever en changeant de situation? Que c'est important de prendre conscience de ces chaînes-là. Est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes dans la métamorphose, ou est-ce qu'on peut les retirer
Et là, c'est tu t'es envolée.
Ouais, presque.
Il reste encore un battement d'ailes. D'accord, mais écoute, je te remercie Sophie pour ton témoignage et ton partage d'expérience.
Merci à toi.
Moi, ce que je retiens par rapport à ce que tu as pu dire, il y a ce lien en effet par rapport à la connexion qu'on a évoquée au départ, cette connexion aux autres et plus uniquement être connectée, je dirais, à Internet là, en l'occurrence. Le fait de repenser sa manière d'être, alors avec sa famille ou en tout cas son entourage hein, de manière générale. Accepter de ne pas pouvoir tout faire tout de suite, parce que les choses prennent du temps. Et c'est en effet, c'est pouvoir aussi, alors, se mettre des échéances, hein, on le voit ensemble, voir les différentes étapes, parce que ce serait trop de charge mentale que de tout faire d'un coup. Et ce n'est pas le travail qui va nécessairement, en tout cas, pas pour tout le monde, permettre de se stabiliser mentalement. Je te remercie et puis je te souhaite une bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci Sophie.
Je vous remercie grandement pour votre écoute de cette nouvelle métamorphose professionnelle et je vous invite tout de suite à vous abonner pour suivre les prochains épisodes, ainsi qu'à commenter, réagir et ajouter 5 étoiles si vous avez apprécié le podcast. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience de métamorphose lors d'un épisode, je vous invite à me contacter à l'adresse soitoi.psydutravail@gmail.com. Si vous vous questionnez sur le sens de votre travail ou sur une nouvelle orientation professionnelle et que vous souhaitez être accompagné et bénéficier d'une écoute ainsi que d'une méthodologie pour opérer les changements nécessaires à votre vie, je vous propose de vous présenter gratuitement le parcours métamorphose à retrouver sur mon site internet www.soitoi-psychologue-du-travail.com. En attendant, je vous dis à bientôt pour une nouvelle métamorphose.